Virginia Woolf, dimanche 8 mai 1932. Ça y est, le voilà le dernier soir. Très chaud, très poussiéreux. Le haut-parleur braille. Elle lit, mais non avec sympathie, le livre d'Ethel Smith. Il est 7h-2, et par conséquent, je dispose d'environ une demi-heure pour remplir ce cahier. Sur mes 100 plumes, je n'en ai utilisé que 10. Mon encrier est encore plein. Cela tient à ce que ces vacances sont les meilleures que j'ai passées depuis nombre d'années. C'était si agréable de nous rendre à la poste après avoir pris simplement un petit pain, accompagné de miel. Et il a fait si chaud, et puis il y avait toujours quelque chose en train. Je n'aime pas les dimanches. Même ici, les gamins qui ont l'air d'être en carton jaune jouent maintenant du tambourin et les chiens aboient. Nous sommes allés à Égine, le 6 mai. Soleil et bleu repoussant peu à peu la brume. Nous avons, elle et moi, découvert une baie déserte, léchée par une eau pâle et pure. Non, nullement pâle, mais pareille à une gelée liquide, posée, tremblotante, sur des galets, des coquillages, des anémones. Elle a traversé les galets en titubant et s'est jetée à l'eau. Moi, j'ai barboté. Mes pieds nus grillés sur le sable. Je les séchais en les laissant brûler une minute. Et c'était une mer vierge. Vue du temple, l'île paraissait être une île des mers du sud, avec des indigènes nus qui se rassemblaient pour voir arriver les bateaux. Marjorie, dont l'humanité grandit et se développe, ou peut-être a la possibilité de mieux s'exprimer, était tout attristée par le nombre des ânes proposés, alors que nous n'en avons pris que 2. Là, les jeunes filles m'ont saisi les mains pour m'entraîner. « Montez, montez » répétait-elle, « très chaud, très raide !» Nous avons fait mine de frissonner et avons dit que nous aurions trop froid sur nos montures. Alors les enfants sont venus nous harceler avec des iris et des pavots jaunes. Même ainsi, en écrivant très vite, je ne remplirai pas mon cahier. Je n'ai guère lu non plus, seulement l'Eastman de Roger et Wells et Murray. Oh, mais c'est que j'ai trop pensé à mon petit livre. La vérité est que ces curiosités que nous visitons, ces pauses assises comme nous venons d'en faire une dans le jardin de Zapeillon, ces moments où nous observons le fou au favori blanc qui rit contre le mur comme si son insanité n'était due qu'à un trop grand âge, et la femme aux dents en or, et le garçon énamouré qui mange un gâteau au chocolat tandis que M s'apitoie douloureusement sur la pauvreté des Grecs qui ont l'air inquiets selon elle, et le gérant de l'hôtel est tuberculeux, dit-elle. Peut-elle donner nos tartines aux cireurs de chaussures? Oh non, elle ne peut refuser au petit garçon un rouleau de pastilles de menthe. C'est là l'attitude refoulée, mi-quaker, mi-virginale qu'elle a vis-à-vis du monde. Comme je le disais donc, tandis que j'observe tout cela et me demande ce qui fait rire la dame fiévreuse aux joues rougies, si c'est mon chapeau de paille dont j'ai supprimé la moitié du bord hier soir, ou bien peut-être les boîtes de peinture dont Roger est péniblement bardé, tandis que je contemple ces importants événements au fur et à mesure qu'ils se coulent, se glissent dans mon esprit et s'impriment à sa surface, je suis par en dessous absorbée par des scènes pour mon petit livre. J'invente des arguments, voire des images, laisse sans arrêt tomber quelque chose de nouveau dans le chaudron dont le contenu doit fermenter aussi copieusement que possible avant d'être transvasé, de reposer, de se solidifier. Tandis que je fais cela et accepte toute suggestion que m'apportent les cyprès et les peupliers qui s'agitent, l'odeur de la fleur d'oranger, le bonhomme qui vend des jouets de 4 sous, ses singes sur des baguettes, le temps passe. Je ne sais plus très bien si je suis en Grèce ou à Londres, mais je pense qu'il est plus probable que je sois en Grèce, heureuse, détendue, bien disposée envers tout ce qui nage dans le sens du courant. Elle discute de la réforme des prisons avec Marjorie, renseigne Roger sur la fission de l'atome. Et puis, regardez, nous nous arrêtons devant une volière. Elle cueille une houppe d'herbe et des perruches la voient et la réduisent en miettes à coups de bec. Nous reprenons notre flânerie. C'est vraiment bizarre qu'on utilise ainsi le kaki, dis-je, et Roger d'expliquer que c'est comme cela qu'on voit la campagne. Puis, nous observons un soldat moyenâgeux en guêtre blanche, chaussures à pompons et jupe. Roger, qui avait peint dans le Parthénon, a répugné à lui demander de poser. « Nous passons 3 heures par jour à manger, » dit Marjorie. « Marjorie voudrait distribuer notre nourriture, » dit elle, ce qui fait que Roger se précipite de l'autre côté de la route. Ce sont là nos plaisanteries, des plaisanteries sans méchanceté, judicieuses. Marjorie reste consciente d'une infériorité. M a parlé de ses parents, a pallié la sévérité de Roger. Aimerait recommencer à vivre, je crois. Qu'est-ce que le manque de charme, je me le demande. Pourquoi ces excellentes qualités ne font-elles pas meilleure impression? Et qu'est-ce au juste qui a dénoué la gerbe en elle, de sorte qu'elle ne fait aucun effet? Pourtant, elle a tous les talents à sa disposition, parvient à obtenir de la graine de kéfir chez elle, voyage, dessine, a une sympathie beaucoup plus développée que la mienne pour les mendiants, les enfants, la condition des gens, mais pas de charme. Puis j'ai eu la vision, à Égine, d'une nouvelle saison chaude, non civilisée, à introduire dans notre vie. J'ai vu comment chaque année nous viendrions ici, avec une tente, nous évadant de l'Angleterre et nous dépouillant de notre peau de respectabilité, et de toute l'attention, de tout le cérémonial de Londres, de la renommée, de la richesse, pour revenir en arrière et nous changer en viveurs irresponsables, nous sustentant de pain, de yaourt, de beurre, d'œufs, en crête, disons. C'est dans une certaine mesure une impulsion authentique, ai-je pensé, en descendant la colline à grands pas souples. Londres ne suffit pas, le Sussex non plus. J'ai besoin de me faire cuire au soleil, besoin qu'on me ramène à ces gens bavards, amicaux, simplement pour vivre, pour parler, non pour lire et écrire. Puis j'ai posé mon regard plus haut sur les montagnes par-delà la baie, en forme de couteau, coloré, et sur la mer débordante, calme. Et j'ai eu l'impression qu'un couteau avait gratté en moi quelque organe incrusté, si bien que j'avais beau chercher, rien ne manquait à cette gracieuse et robuste beauté, tellement imprégnée de couleurs qu'elle n'était pas froide, exempte de vulgarité, bien que vieille en vie humaine, de sorte que chaque pouce de terrain a sa fleur sauvage qui pourrait pousser dans un jardin anglais. Et les paysans sont doux de caractère. Leurs vêtements, usés et brûlés, bien que grossiers, ont des teintes subtiles. Voyons, il existe des sympathies entre les gens et les lieux, comme entre les êtres humains. Et, vieille femme, je pourrais aimer la Grèce comme enfant j'aimais la Cornouaille. Pour cette raison même que nous reviendrons, et parce que elle veut aller dîner, et qu'il y a, je crois, un cheveu pris dans ma plume, je ne crois pas pouvoir en dire davantage pour marquer solennellement cette fin. Maintenant, prépare-toi et ne bavarde pas tant. Il faut que je m'arrête. Le dernier soir encore, elle joue aux échecs avec Roger, et moi, avec Laurence, à lire, j'ai reposé sur mon lit, en proie à une de ces intéressantes torpeurs. Et maintenant, réveillée, je ne puis que tenter de fixer ces dernières minutes, car elle sera là, si j'y parviens. Les Grecs qui ne dînent pas avant 9h sont occupés maintenant, c'est-à-dire qu'ils jacassent, qu'ils cornent en circulant en auto dans la rue. Je les entends, bien que notre fenêtre n'ouvre pas sur la façade. C'est une belle soirée. De temps en temps, l'on saisit quelques mots isolés. La moitié supérieure d'un immeuble sonne creux. Voilà maintenant que commence le haut-parleur. Il va débiter quelques mesures de sa musique rauque, puis se taire brusquement. Tout cliquette et tressaute. On croirait entendre ferrailler une charrette disjointe mais rapide. Les journées d'Athènes vont se faire de plus en plus chaudes. Ce soir, on dînait sur le trottoir au Costis. Et les nuits seront de plus en plus bruyantes et gaies. J'ai oublié de décrire le Parthénon vu hier. Pur éblouissement. Un rectangle de ciel bleu dessiné par les colonnes blanches. L'élan concerté du Parthénon. Une étroite bande d'ombre le long de l'érectéion dans laquelle nous nous sommes assis. Et un brave bavard aux yeux bleus s'approcha en flânant pour demander à examiner la canne de Hélle, celle annelée, achetée à Sparte. Il la dénigra et nous lui dîmes que c'était une canne grecque. Et il affirma que non, que c'était une canne de bananier provenant du Canada, n'avait jamais été fabriquée en Grèce. Après quoi il se mit à parler des paysans grecs. À voir comment ils vivent, il y a de quoi pleurer. Toujours à travailler. Et rien d'autre à manger que du pain noir, si dur qu'on n'arrive pas à le couper. Ceci accompagné de gestes horribles. Et sans doute qu'ils fabriquent un peu de fromage qu'ils vont vendre. Mais il y a toujours du vin en abondance. Puis il passa à la guerre. Tout est allé de travers depuis. Avant la guerre, la livre était stable, et la drachme aussi. Maintenant, un jour elle monte, un autre elle dégringole. Combien coûte le kilo de sucre en Angleterre? Dans un kilo, il y a 3 livres, Ma foi, c'est moins cher en Grèce. Le gouvernement y veille. Mais tout ce qui vient de l'étranger est cher. Les souliers, les vêtements. Et nous ne fabriquons presque pas de farine. Tout cela en français estropié, alors qu'un jeune officier français était assis près de nous avec sa femme et sa sœur, qui étudiaient un guide. Un bateau de guerre français était dans la baie, ainsi qu'un Italien, et les Anglais n'allaient pas tarder à arriver, et les marins se promèneraient partout en ville pour dire qu'ils avaient vu la Grèce. De fait, voilà qu'arrivait un guide accompagnant des marins français. « Seuls les marins français sauront ce que c'est que les frontons et les colonnes », dit Roger, toujours épris des Français. « Les Français cuiraient ceci bien mieux, ou feraient cela bien mieux. » Maintenant, le président de la République française a été assassiné par un Russe blanc. Marjorie dresse aussitôt l'oreille, s'apitoie, puis s'interroge intelligemment sur les effets que cela pourrait avoir sur la politique. Nous nous sommes donc rendus tout droit à la colline que le chauffeur appelait Philippapos. Mais elle était interdite par des fils de fer et nous avons donc fait demi-tour et sommes allés au théâtre de Dionysos, au siège de marbre incurvé, chacun portant, gravé en creux, le nom d'un prêtre abonné. Tout comme on colle des cartes sur les loges, à Covent Garden. L'un, celui aux pattes griffues, celui du lion, était destiné au prêtre de Dionysos et sculpté de chèvres bondissantes et de grappes de raisin. Elle s'est assise et nous avons dit que Sophocle, Euripide et Aristophane avaient dû prendre place là pour voir. De toute manière, les collines s'offraient à leur vue comme à la nôtre. Et si les 2000 ans ont déposé sur le terrain quelques légères maisons de stuc, en ruine qui barre le chemin, rien n'est guère venu endommager le paysage. Rien de solide, de considérable, de durable n'a été construit. Pauvreté, guerre, malheur ont empêché toute oblitération, ici ou ailleurs. En fait, on demanderait plus de soins et de surveillance plutôt que moins. Cet après-midi, les mauvais garnements grecs lançaient des pierres sur un arc de marbre, le picotant de telle sorte que dans quelques années il sera irrémédiablement endommagé. Les tombeaux sont envahis d'orties, de boîtes de conserve, ignobles, dénaturées, bien que les Grecs les aient bâtis de leurs propres mains. Oui, le pays est par trop épuisé, ne serait-ce même que pour continuer à veiller à ses propres intérêts. Ce qui excuse sans doute Lord Elgin d'avoir volé les statues du Parthénon et les colonnes du tombeau d'Agamemnon à Mycène. Elle n'en finit pas de jouer aux échecs, et il est presque minuit. Mais Athènes ne montre aucun signe de sommeil, si bien que je ne peux pas me plaindre. Les tramways font entendre une sorte de hurlement sifflant. Demain, à 7 heures, nous approcherons de Salonique. Je me retournerai sur ma couchette, elle sur la sienne. 3 nuits d'affilée, jusqu'à ce que nous soyons à Rodmel, où nous dormirons dans nos lits moelleux à la fraîcheur du mai anglais.